Quand vous voulez.
Hello!
Je suis prêt.
Je suis prêt aussi.
C'est vrai?
Je suis prêt aussi.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Du Bruit à mes oreilles. Ouais, cette semaine, on commence ça comme ça.
Yeah! Ah,
j'étais avec mes deux co-animateurs, Alexandre Phillips.
Salut.
Phillips Kids.
Bonjour, bonjour.
Alexandre Phillips Kids.
Ça va bien?
Ça va bien. Oh, on commence demain pour de vrai?
Ah oui,
c'est vrai. C'est original!
C'est parti. Oh yes. Bonjour tout le monde, bienvenue.
On s'améliore avec les années.
Ça va de plus en plus freestyle.
Yes, sir. Ouais, aujourd'hui, on est tous réunis pour parler de
Dream Theater.
Dream Theater, il y a quel album, mon cher Jean?
Systematic Chaos.
Oui, Systematic Chaos, qui est leur 9e album, sorti en 2007. Sous la maison de disques Roadrunner.
Hey, c'est la même maison de disques que Slipknot.
Ouais. Ouais, exactement.
On a parlé il y a deux semaines.
Mais qu'on n'a pas dit la maison de
disques. Ouais.
Ok, hein. Backtracking, Slipknot, Roadrunner, Big Love.
Ouais. Fuck yeah.
Donc, Dream Theater. C'est un groupe originaire de Boston, au Massachusetts.
Ça, je savais pas qu'il venait de là. J'ai été.
Ouais, moi aussi, je pensais qu'il venait plus loin. Je sais pas pourquoi.
Ouais, moi, j'aurais dit Philadelphie. Ça, un petit son de Philadelphie. Tu sais, le rap de Philadelphie est
ouais,
un peu...
C'est vrai que ça sonne comme Dream Theater, le rap philadelphien.
Exact. Avec Jedi Mind Tricks et compagnie.
Yeah, boy.
Donc, un groupe formé en 1985. C'est un groupe de métal progressif.
Yes.
Bon, je pense qu'on peut l'entendre en background. Du clavier, de la guitare, de la bass. Un drummer de fou.
Hey, quand on les a vus au Rockfest en 2012, ouais. Il était-tu immense, son assis de drum?
Ben oui.
Ah ouais.
Mais lui, c'était...
toujours eu des immenses drums. C'est comme une qualification de Mike Pointoy.
J'ai pas écouté le show complet. Là. J'ai écouté 2-3 tunes. Là.
Ouais.
Et je suis parti parce que personnellement, c'est pas ma tasse de thé.
Ouais.
Dream Theater. Mais j'ai été impressionné même par le drum, là, la grosseur du drum. Là.
Ouais.
C'est juste ça que je voulais dire.
Bon, on les a vus 2012 au Rockfest.
Ouais.
Rockfest de Montebello.
Attention que tu fais ça, tu vas frapper dans le micro.
Il va faire un headbang sur le micro, ça va.
Ouais, Skids, lui, c'est dans sa palette, je pense.
J'aime un petit peu ça.
Un petit peu.
Ouais, moi, c'est la première fois que j'ai voyé en show.
Ouais, moi aussi, c'est la seule fois.
Je les connaissais pas, je les connaissais non, là, mais pour de vrai, j'ai été comme flabbergasté des voix. Là. Live, là, sont tellement bons, là, tellement des bons musiciens.
Ouais. C'est ultra tête en plus.
Ben oui,
c'est ultra technique.
Ça
n'a
pas le choix.
Non, ça n'a pas le choix, mais je veux dire, si tu préfères la musique ultra technique.
Celui qui
va
aller voir ça,
ça
va être vraiment du monde qui s'assied même et qui l'écoute.
La plupart
du temps, dans leur show, par terre, il y a des chaises.
Ah ouais?
Yeah, buddy. Parce que le monde qui va voir ça, ils ont 45 ans.
En tout cas, il va capoter, puis à un moment donné, t'as juste le claviériste qui sort sa grosse guitare de fou, puis il se tape un solo de clavier. Ça faisait capoter avec plein d'effets.
Ouais.
On va faire des pitch et notes, c'était malade. Ça m'aurait en fait capoté. Fait qu'on peut y aller avec les membres du band.
Yes, vas-y.
Au chant, t'as James Labrie. À la guitare, John Petrucci. À la bass, t'as John Myung. C'est ça? C'est comme toujours la misère à dire. Clavier, Jordan Rudess. Puis à batterie, lors de l'enregistrement de l'album, c'était Mike Portnoy.
Okay.
Mais il a été remplacé par Mike Mangini en 2011.
Okay. Il y a d'ailleurs une vidéo vraiment awkward de comment ils ont sélectionné leur nouveau drummer.
On a dit l'année qui est sortie. C'est quoi?
Ouais.
On a dit le nom de l'album? Non, pas encore.
Ouais, j'ai dit systématique.
Ok, sorti en 2007.
En 2007, yes.
Donc ça, Mike Portnoy, on en parlait un peu, là. C'est vraiment un bon guitariste. Il a vraiment un gros set de drums de fou. Puis il a fait beaucoup de vidéos et des tutoriels pour expliquer comme quoi. Perfectionnement drum, des trucs comme ça.
Tu es vraiment un bon guitariste.
Oui, j'ai peut-être dit ça. Un bon drummer. Puis c'est ça. Puis il était connu pour faire des genres de petits tutoriels sur perfectionnement au drum, des trucs comme ça.
Okay.
Puis il a comme été, je pense, pendant 13 ans de suite, il a été nommé genre meilleur drummer de genre metal au monde.
Ok.
Genre c'est une brute là.
Je suis pas étonné.
Puis il a comme beaucoup de renommée. Puis il est parti de Dream pour aller rejoindre Avenged Sevenfold.
Ben en fait non.
Il
est pas parti pour cette raison-là.
J'ai peut-être exagéré.
Ouais, non. Faut quand même. Présente-le comme il faut.
Ok, vas-y.
Il y a eu des dissensions dans le groupe. Lui, il voulait prendre une petite pause, relaxer parce qu'il faisait juste faire des shows enregistrés, composés, Il commençait à trouver ça vraiment lourd parce qu'en plus, ils ont beaucoup de side projects, les gars. Ils ont Liquid Trio Experiment, Liquid Tension Experiment. C'est tous des side projects. Les gars, ils voulaient essayer ça aussi. Puis comme leur structure laissait vraiment aucune liberté par rapport à ça, Portnoy, il voulait quand même prendre, je pense, c'était quelque chose comme un an.
Okay.
Ça n'a pas marché avec les gars du band. Fait que Mané a communiqué comme quoi il s'en allait, puis ben, ils ont trouvé un nouveau drummer. Là. Ça a fait partir une grosse portion de la fanbase de Dream quand même.
Ah ouais?
Parce que c'est une grosse partie de l'identité aussi du groupe que My Partner soit là. Fait que ça a été quand même assez dramatique comme moment pour.
Excusez-moi.
Ouais. Pour le fanbase de Dream. Mais écoute. Ben après ça, justement, quand tu dis qu'ils sont allés avec Avenged, c'est parce que The Rev est mort, le drummer. Il était en pleine tournée. Il s'en allait faire une tournée mondiale, puis il avait besoin d'un bon drummer pour remplacer The Rev. Puis, ben, Portnoy, qui avait pu réellement comme de grosses occupations. T'allais les rejoindre dans leur tournée pour leur donner un petit coup de main. Puis,
Mais j'avais entendu que The Rev, son idole, c'était Mike Portnoy. Fait Avenged avait demandé, genre, il avait écrit une lettre où il disait. Oh, est-ce que tu voudrais venir avec nous? Genre, The Rev aurait vraiment aimé ça que tu le remplaces. C'est un de ses meilleurs leaders. On a besoin d'un drummer. Puis c'est une sommité du drum. Là.
Ouais.
Fait que.
Il doit trouver ça quand même assez sympa, jouer du Avenged.
Ouais.
Ouais, mais c'est sûr que pour lui, c'est pas. Un énorme défi.
C'est pas la meilleure chose de parler avec la bouche pleine.
Mais est-ce qu'ils ont enregistré un album avec? Je pense qu'ils ont enregistré quelques tunes avec. En tant que lui, comme drummer.
Ouais, je pense qu'il a joué des parts, mais il a pas composé.
Ok.
Je me rappelle plus exactement. Ça fait longtemps que je me suis renseigné là-dessus en toute honnêteté. Là. J'avais lu, là, ça m'intriguait de savoir pourquoi il était parti. Là. Parce que, c'est un petit bout que je connais de lui, ma soeur, qui m'a initié à ça.
Ça,
puis Opet. Ben oui, comme j'ai compté dans l'épisode de sa brosse. Donc, ça fait un petit bout, secondaire 1, genre, que j'écoute ça.
Quand même.
C'est un petit bout de temps, là.
Fait que c'est ça, c'est un ben progressif, de métal progressif. Qu'est-ce que vous avez pensé du son?
Le son, j'ai adoré.
C'est très technique. Très technique.
Côté musical, c'est
je trouve qu'ils font bien voyager.
Ouais.
Ça, j'enlèverais jamais ça. Moi, je suis pas un fan de ce genre-là.
Ben, c'est l'attrait du prog quand même.
Mais il y a bien des bands que je trouve que ça, c'est plus ou moins bien réussi. Eux autres, je trouve que tout est tout le temps bien dosé. Vraiment, chaque passe t'amène d'un bout à l'autre, puis ça fait avancer tout le temps. Je trouve pas que ça saigne à une place, après ça, tu repars comme si ça avait pas rapport. Je trouve que les autres, c'est tout le temps bien fait. Mais par exemple, j'ai vraiment de la misère avec des tunes qui durent 15-20 minutes. Hein. Ouais, c'est vraiment pas mon fort, là.
C'est sûr, c'est tough de justement mettre des barrières aux tunes. Tu sais pas, si tu l'écoutes le CD lors d'une traite sans. Être exactement focus sur ce que tu écoutes à ce moment-là. Mettons que tu travailles, là, c'est vrai que c'est dur de savoir quand est-ce que ta chanson commence, quand est-ce qu'elle finit. Moi, honnêtement, ça fait partie de la qualité du CD, là, d'être capable de l'écouter dans un blend complet, puis genre toujours faire comment ça suit, puis ça arrive. Quoique, ce CD-là, il fait quand même une grosse rupture quand tu regardes la structure là, des chansons. Tu as In the Prisons of Enemies Part 1. D'après ça, c'est coupé complètement à travers tout le CD pour mettre le part 2 complètement à fin. Quand il y a une suite logique, il y a des thèmes qui reviennent dans les deux chansons. Fait que ça, c'est une approche
artistique. C'est un peu comme... merde, c'est quelle band qui a fait ça, là, qui commence par une tune là?
Ils System of a Down?
Non, c'est parce du...
Ils l'ont fait aussi avec Soldier Side.
Ils chantent Wish You Were Here. Pink Floyd a fait ça dans un album.
C'est
genre The Wall Part 5.
Ouais, mais genre, ils commencent avec une tune, après ça, t'as tout l'album, puis ils finissent avec la même tune qui a commencé sur les mêmes rythmes, le même temps. Ouais. Tu sais, c'est comme... Ça m'a fait penser à ça un peu, c'était le truc Dream Theater. Puis une affaire aussi, je trouvais le fun. Je trouve qu'il laisse beaucoup de place pour les instruments.
Ouais.
Tu es souvent dans bandes comme le chanteur qui prend beaucoup 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 de place puis la musique est comme secondaire un peu genre l'instrument est comme en arrière mais dans ce CD ben dans Dream en général je trouve qu'il laisse beaucoup 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 de place à la guitare au clavier puis à la basse.
Ouais.
Genre l'album commence là c'est une tune instrumentale de 5 minutes genre où est-ce que le chanteur il parle pas pendant 5 minutes l'album commence de même puis live quand on les a vus tu sais genre le chanteur il chante puis quand c'est une pause comme justement de 5-6 minutes instrumentale le chanteur il sort du stage il s'en va en backstage il laisse toute la place aux musiciens puis c'est les musiciens qui lead comme cette bout là puis après ça il revient puis il continue de chanter c'est comme si la voix était comme pas au-dessus de la musique.
Ouais je vois qu'est-ce
que tu veux dire. James Labrie a toujours eu un espèce de poste un peu sujet
c'est pas genre le...
à discussion dans les fans de Dream là, parce que c'est pas tout le monde qui apprécie ce qu'il fait non plus. Puis c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi le Liquid Tension Experiment existe là, c'est genre Dream sans chanteur overall.
Ah ouais.
J'ai ben pas de temps là, mais.
Mais c'est vrai que tu sais.
Mais je trouve pas qu'il. Ça c'est complètement personnel. Je trouve pas que sa voix est aussi bonne que les musiciens.
Non, ben c'est sûr. Même,
je trouve que la musique est beaucoup plus grande qualité que la voix du chanteur.
Ça s'entend surtout en live. Quand tu connais, mettons, les tunes et que les voix live, moi j'ai pas vu de performance live, mais j'ai vu des vidéos live. Puis c'est souvent la même expérience où la musique est juste parfaitement faite, les solos sont juste identiques. T'as l'impression dans le fond qu'ils jouent pas puis que c'est un playback. Mais la voix par contre, c'est. Tu te rends compte qu'elle est live parce qu'elle est pas un point.
Ouais, c'est ça.
Mais tu sais.
Mais même enregistré, je trouve pas que ça chante aussi bien que les musiciens vont jouer.
Ouais.
Ben moi je trouve qu'il y a une belle voix. Tu sais, il va genre chercher une note, il est sa note. Tu sais, il y a une voix vraiment très particulière. Tu le sais tout de suite que c'est lui, là. Tu sais tout de suite que c'est du Dream quand la voix embarque, là.
Ben ouais.
Mais je trouve qu'il y a juste une sorte de voix, genre. Parce que t'as des tunes comme dans la cinématique Chaos où est-ce qu'il y a sa voix puis ils mettent une autre voix en background pour comme faire comme ça être un petit peu plus rauque.
T'as dit Constant Motion.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
T'as dit le monde sur la place.
Ah, comme Constant Motion puis Eternal quelque chose, la tune d'après.
Hein?
La tune après Eternal.
Dark Eternal Night.
Dark Eternal Night où est-ce que. Pour de vrai, je suis même pas capable de l'écouter parce que je suis pas capable de la voix. T'as genre sa voix, puis en arrière, t'as une autre voix avec l'effet, puis t'as une troisième voix, tout un par-dessus l'autre pour faire comme s'il screamait, là.
Ouais.
Puis sérieusement, je suis pas capable, là. Je décroche complètement.
Ben, justement, comme cette partie-là, c'est une des raisons pourquoi j'ai suggéré ce CD-là dans toute la discographie de Dream. Je pense que c'était ce qui était le plus accessible pour notre pauvre Alex, le moins fan de prog. Parce que si on tombe dans, mettons, Octavarium qui a une toune qui s'appelle Octavarium, de 22 minutes, avec peu de. Attends. Il y a aussi Change of Season, c'est comme les deux tunes les plus longues de Dream.
Ouais.
Les deux plus que 20 minutes. Puis il y en a une des deux, je pense que c'est Octavarium, il y a un bout de chanson de Noël au milieu.
Ah ouais.
Fait que ça, c'est le côté funky, vraiment wild de Dream qui se retrouve vraiment moins dans Systematic Chaos, qui est vraiment plus métal. Je trouve qu'il reste vraiment plus au core metal, ouais. Avec le côté progressif, mélodique, les gros solos, le gros drum, la bass qui fait des trucs funky, sans aller vraiment leur côté plus. Funk, jazz que tu peux retrouver dans CD plus vieux dans le fond dans leur discographie. Okay, ouais. Puis que tu vas retrouver aussi dans leur côté plus dans leur projet Suicide, Liquid Tension, Liquid Trio, tout ce que les gars ils font aussi Suicide, que j'écoute moins. Jordan Rudess, il a quand même une grosse carrière de clavier en dehors de
la vie. Ouais, ça doit. Ben, il est ultra talentueux. Avant de venir, on a écouté le making of de l'album. Il y a un making of.
Ouais, c'est ça. C'est
disponible sur YouTube.
Comment vous avez trouvé ça?
C'est super bon. Ben, il passe les tunes genre une après l'autre, puis il explique un petit peu les thèmes, comment il a fait, puis tu les vois comme à l'enregistrement. Là.
Okay.
C'était impressionnant, là, pour de vrai. Là. Le claviériste qui est là, il se tape un solo de la main droite, là, de genre de fou, là, puis de la gauche, il boit son café, puis il regarde dans les airs. Genre, ça n'a même pas d'allure. Là. Il tape des passes là, tellement vite, tu comprends pas ce qui se passe.
C'est vraiment bon. C'est justement drôle quand tu écoutes le making of, parce qu'on parle que le chanteur, c'est le moins talentueux.
Ouais, c'est
il
ça.
Rit un peu de ça pendant le bout pendant le documentaire, parce qu'ils sont là, ben là, James est rendu à sa troisième prise, il jure que ça va être la bonne. T'sais. Pendant que les gars, tes voix, ils font juste pratiquer leur solo, puis. Quand tu connais la tune, tu le sais qu'il y a exactement le solo parfaitement, ils sont même pas en train d'enregistrer. Ça n'a aucun sens.
T'es comme le chanteur, tu vois, il chante, mais tu vois qu'il il l'a là, mais genre, ben il l'a.
Il est pas
c'est comme pas comme sur le CD, fait que t'es comme, ok, c'était pas celle-là la bonne. Il le refait, puis à un moment donné, il manque comme juste un mot. Il le refait, puis à un moment donné, tu vois, il est en train de pogner un air, là, puis là, il dit, ah, oh, c'était bon, tu l'avais, là, mais ce mot-là, tu l'as pas eu, fait qu'on va le refaire, puis tu vois qu'il est comme à bout, on sait qu'il est comme pas capable de le faire, genre.
C'est drôle parce qu'il enregistre beaucoup de back vocals avec le reste des membres de l'équipe.
Ouais.
Ben, de l'équipe du Ben.
Ouais. De la team. De la troupe.
Du Ben, ouais.
Du groupe. Puis tu vois que, quand même, côté chant, ils ont sélectionné le meilleur des chanteurs pour chanter.
Ben, ouais,
les autres sont pas bons. Mais c'était drôle, là.
Ben, c'est vrai que c'est comme une gang de métalleux, mais que ça. Ben, t'as le chanteur, justement, qui chante. Moi, je trouve que chante bien.
Chanteur,
t'as le reste qui font juste.
Chante, ils ont du fun, mais honnêtement, ils ont l'air d'avoir du fun.
Oui,
c'est ça qu'il faut, là. C'est la moindre des choses. Là.
Mais quand tu dis ça, si je me trompe pas, Systematic Chaos, c'est le dernier CD qu'ils ont fait avec tous les noms originaux.
Original.
Puis Mike Portnoy est parti après. Fait que je pense que la relation devait déjà être un petit peu tendue entre eux. Là.
Ouais, peut-être.
Puis ce que j'ai lu entre les lignes, c'est que la tension vient généralement du chanteur.
Mais chanteur, c'est. Ils sont souvent difficiles, me semble, les chanteurs.
Ben, quand même. Tu sais, c'est le frontman.
C'est lui qui a tout le fame, puis c'est lui qui lead d'habitude. Ben, c'est qu'un chanteur d'habitude, ça lead le groupe, là. C'est lui qui parle, c'est lui qui.
C'est l'image, puis là, ben, il est un peu contesté, fait que c'est dur pour son estime.
Tu vas voir que tu commences à parler plus fort,
hein? Ah ouais?
Non.
Non, okay. Va pas que tu cries, là.
Ah, okay.
Parce que je me fais souvent dire qu'on t'entend pas beaucoup.
Ah! Excusez-moi, les auditeurs.
Oh, tu parles pas devant le micro et tout. Mais...
Excusez-moi.
Ils ont fait, ils ont fait un vidéoclip pour l'album.
Juste un.
Four Seconds, ouais. C'est une animation à la. On l'a genre écouté, là, moi, Piscuit. Puis...
Ok.
Moi, j'ai pas trop aimé. Je sais pas ce que t'en as pensé.
Moi, j'ai aimé la chanson.
Oui, non, c'est ça.
Pas le vidéo.
C'est un clip. C'est un clip pour faire un clip. Là. J'ai l'impression que c'était ça. Là, mais...
ouais, c'est genre ça. C'est du média de plus pour eux.
Ça creuse peut-être un peu plus, là, parce que. Dans la thématique, là, mais. Je pense pas que ça rajoute tant que ça à la toune. Puis...
Ok.
J'ai de la misère à le finir. Sinon, si on va, on peut parler des thèmes un peu, des paroles.
Ouais.
Les paroles ont été écrites, les tunes, c'est pas mal toutes. Ben, toutes. La majorité, je dirais la moitié, c'est John Petrucci, qui est le guitariste.
Ouais.
Ok, ouais, je voulais te confirmer.
Il est joué.
Il y a deux tunes qui ont été écrites par Mike Portnoy, fait que le drummer.
Ouais.
Puis il y a une tune qui a été écrite par James Labrie, Prophets of War, qui est le chanteur.
Yep.
Puis il y a une des tunes, j'ai creusé un peu, la tune Ramp and Dance, qui a été écrite par Mike Portnoy. C'est là où est-ce qu'on entend du monde parler pendant la tune.
Ouais.
Parle à toi, vu que Alex est parti. Puis c'est plate parce que ce bout-là, je voulais qu'Alex l'entende, mais...
Ben, il t'entend, là, il est pas sourd.
Ramp and Dance, c'est une tune. En fait, t'as deux sous-tunes à l'intérieur, t'as deux sous-chansons qui font partie d'un groupe de chansons que Dream a fait sur plusieurs CD. Fait qu'ils ont fait 12... chansons, 12 sous-chansons sur 5 CD différents qui parlent du problème d'alcool que le drummer a eu.
Okay.
Parce que le drummer a eu un problème d'alcool puis de drogue. Il a été dans les Alcooliques Anonymes. Puis dans les A. Puis dans les A, ils ont comme leur système des 12 étapes pour te sauver de la dépendance.
Ah, ben bien tu connais, Jacob.
Fait que, ben, j'ai lu la webpage du plaisir.
Puis c'est pas de l'expérience personnelle.
Puis Mike Portnoy a écrit, en fait, pour chacune de ces étapes-là, il a écrit une chanson.
Okay.
Mais sur 5 albums de long. Puis si tu les mets toutes une après l'autre, ça fait une heure de chanson. Fait que c'est une longue chanson d'une heure qui a été segmentée sur plusieurs albums.
C'est vraiment, vraiment
intéressant.
Ça, c'est une démarche artistique de malade, je trouve.
Puis qu'est-ce qui est plate, c'est que eux autres, ils voulaient faire ça. Dans le but, là, ils voulaient finir ça. Puis tu sais, ça finit pas avec cet album-là, ça finit avec l'autre d'après. L'autre album d'après, je sais pas, mais en tout cas. Il reste un peu. Puis le drummer est encore là pendant. Fait qu'il l'a quand même composé. Mais il a quitté le groupe. Comme avant de l'avoir joué au complet, avant d'avoir joué le gros bloc des 12 tunes. Puis lui, c'est genre, c'était comme son projet à lui un peu, là. C'est genre, c'était comme. C'est lui qui a tout composé, ben qui a pas composé, mais qui a écrit les tunes. Ils l'ont composé ensemble, puis lui, son but c'était de le jouer d'une traite. Puis il a comme vraiment cheminé là-dedans, là. Il raconte, il a vraiment cheminé. Puis il a pas réussi à le jouer au complet avec Dream. Mais il a joué par après lui-même, il s'est avec des artistes invités, il faisait des shows, puis il jouait son set d'une heure de toutes ces 12 étapes-là, une après l'autre. Dans cet album-là, c'est les étapes. Je vais juste aller relire mes notes. C'est les étapes. C'est les étapes 8 et 9. Soit Regret et Restitution. Dans Regret, t'as comme un gros texte qui explique le regret, qui explique pourquoi est-ce qu'il faut comme vivre le regret, puis passer par-dessus, puis apprendre de ça. Parce que le regret, c'est quelque chose qu'il faut que tu regardes et passer par-dessus si tu veux aller plus loin. Là, parce qu'il faut pas vivre avec du regret. Puis dans Restitution, c'est un bout où est-ce que c'est juste une musique un petit peu comme vraiment très, très, très planante. Puis lui, il a invité d'autres artistes de ses amis pour venir exprimer des regrets qu'ils ont eu dans leur vie, puis des excuses, faire des excuses live sur l'album, mais c'est des vraies excuses. Puis là-dedans, t'as vraiment plusieurs personnes connues, comme genre t'as le bassiste de Megadeth qui est venu parler de ça, t'as le chanteur du groupe Yes, puis t'as Corey Taylor qui est venu faire des excuses dedans, donc le chanteur de Slipknot. C'est lui le premier qui parle. C'est lui le dernier qui parle dans ce tune là. Puis il parle
j'ai
de trucs.
Remarqué.
Ben, au pire, on le mettra pas, mais. Ouais, c'est le premier qui parle. On l'a comme réécouté, là, puis.
Ok.
On
checkera
après.
Ah ouais.
mais je trouve ça vraiment cool, puis ça dit vraiment des affaires full personnelles sur le monde. Tu sais pas vraiment lequel qui est lequel, mais tu sais, Corey, on s'entend qu'il y a une voix assez. Tu le sais quand il parle.
Ouais, tu le reconnais.
T'as-tu la liste de ces chansons-là qui forment les 12 étapes? Parce que, selon mon expérience, j'imagine que Honor TIE Fighter, qui est sur Train of Thought, ça doit faire partie de ça.
Ben, continue de parler, je vais chercher.
Parce que, ben, justement, dans ce tune-là, ça parle. C'est une tune qui parle d'expérience de vie puis de regrets, entre autres. C'est ce qui m'a fait tiliter quand tu parlais de passer par-dessus le regret. Puis ça en parle, puis des relations interpersonnelles, puis que, dans le fond, c'est un père qui se tape un peu sa relation avec ses enfants pour telle et telle raison. Puis c'est peut-être Fait que ça en fait partie.
Est-ce que vous avez poussé vos recherches tellement plus loin que moi? Là.
Non, mais pour de vrai.
Ben moi, c'est parce qu'à base, j'aime Dream. Je connaissais déjà.
J'avais de la misère. Ça a été pénible d'écouter l'album, c'est pour moi.
Ben, je comprends.
C'est juste à cause. C'est vraiment la longueur des tunes.
C'est sûr. Ben, tu sais.
Moi, c'est là que ça me bug.
Honnêtement, je pense que c'est pas le genre
un
bon
truc musicien pis tout. Ben, ouais, tabarnak, je suis pas capable.
C'est un CD, je pense, que tu peux pas te forcer à écouter dans le sens où tu dois te forcer à l'analyser puis que tu restes devant ton ordi à te dire « Ok, j'écoute tout ça » parce que il reste que tu vas toujours finir par dire la même chose. Tu sais, dans cette tune en ce moment, t'as une astuce belle passe mélodique. Mais c'est tout le temps ça, je veux dire. Dream, c'est des astuces belles passes mélodiques avec d'autres trucs autour, mais ça, je pense que ça s'expérimente juste sur le moment même.
Non, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je suis un fan de punk.
Ah non, c'est
des tunes de 2 minutes et demie. Maximum.
J'ai trouvé les 12 étapes.
Vas-y.
En fait, c'est ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 tunes, mais à l'intérieur des tunes, t'as des sous-tunes.
Okay.
T'as des sous-chansons qui sont comme segmentées. Là. Fait que la première, c'est The Glass Prism.
Okay.
De l'album Six Degrees of Inner Turbulence.
Okay.
La deuxième, c'est This Dying Soul de Train of Thought.
Oui, ok.
C'est ça, ok. Ça, t'as The Roots of All Evil de Octavarium. Après ça, t'as Repentance de Systematic Chaos. Puis la dernière tune, c'est The Shattered Fortress de Black Clouds and Silver Linings. Fait que toutes ces tunes-là, si t'y mets une après l'autre, c'est ça que j'ai dit, ça explique les 12 étapes. Fait que c'est tout un méchant beau projet qu'il a fait. Genre, je trouve ça fou, là. Il a comme mis ça. Il a comme segmenté ça.
C'est quand même par exemple, qu'il a pas fait de la fin.
Ouais.
Ouais. Là, tu viens juste d'infirmer ma théorie comme quoi c'était Honor Tie Fire. Fait que ben, c'est intéressant, on a appris. Ça reste une très bonne tune.
On fait des liens.
On fait des liens.
Du bruit à mes oreilles.
Vous avez appris ça à du bruit à mes oreilles.
Bon, en tout cas, fait que c'est ça.
Comme ça, c'est quelque chose que j'aime. C'est quand même assez simple. Qu'est-ce qu'on entend en background, bien sûr.
Dans ce cas-là, je te recommande quand même le CD Train of Thought. Il est aussi métal. Comme dans les CD les plus métal de Dream, t'as Systematic Chaos pour moi, puis Train of Thought, c'est deux plus de bons CD pour moi. Puis ils sont quand même plus du côté métal. Le reste, c'est quand même un peu plus bassy, funky et tout. Là. Ça reste que c'est vraiment bon, mais c'est peut-être moins accessible pour toi, mon Philips. Puis pour nos auditeurs aussi qui aiment pas trop moins, on va dire.
On pourrait pas dire ça, on sait pas.
Non, mais c'est ça, mais s'il y en a qui recherchent plus le métal, moi je recommande Train of Thought puis Systematic Chaos. Puis sinon, si vous voulez aller dans le Wild Side du Dream Theater, là.
Ben, Wild Side.
Octavarium, un est bon CD.
C'est quoi, c'est plus funky, genre?
Plus funky, plus. Plus space. Là, on parlait de Stoner tout à l'heure.
Ouais.
Plus Stoner. Ça s'apprécie sur des vibes étranges.
Ok.
Très cool.
Écoutons. Attends. Je suis pas capable de cette voix-là. Il y a plein de voix en dehors de slow, hein.
Ah, ben écoute, c'est une tentative, là.
T'engages un autre chanteur.
T'engages.
Je rappelle Corey, il dit qu'il screen ça un peu, là.
J'ai eu ces discussions. J'ai dit cette discussion-là quand j'étais au secondaire avec un de mes amis qui aimait aussi Dream, puis on écoutait justement Train of Thought que je parlais tout à l'heure, puis on se disait, tu sais, ces gars-là, là, ils ont tellement de talent, s'ils voulaient faire de quoi de brutal, là, ils réinventeraient le genre, là.
Ouais, mais peut-être qu'il y a un chanteur brutal.
C'est ça, non, mais. Ouais, okay. Fait que tu mets le chanteur de Die Hard is Murder dans ce groupe-là, puis tu leur dis.
Exagère pas, là.
Tabarnak.
Dream qui vire au black metal.
Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est. Die Hard is Murder, c'est pas du black.
Non. Je connais pas, mais j'ai juste été au max que je pouvais.
Le max du Big Squeer.
Tabarnak. Fait que. Sinon,
est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Ah oui, ben moi je trouvais que ça ressemblait. Si je fais un lien avec les autres épisodes qu'on a fait, je trouvais qu'il y avait des bouts qui ressemblaient, puis je t'en avais parlé, Skid. Ben c'est dans le prog, là, c'est dans la vague du prog, là, mais Between the Buried and Me qu'on a fait la critique, moi et Alex, je trouvais qu'il y avait des passes qui se ressemblaient. Tu sais, des passes où est-ce que. Il chante, mais maintenant il part dans une affaire quasiment cacophonique, là, puis c'est juste comme des bruits bizarres, puis des solo de drum, mais vraiment comme. T'es comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, genre? Ça, je trouvais que ça allait chercher un petit peu le côté de Between the Buried and Me, là. C'est, ben, Between, je pense
que c'est un petit peu plus violent. Hein?
Oui.
Ben, ça scream, puis c'est moins...
J'ai préféré Between à Dream Theater. Puis j'ai pas tant trippé sur Between, non plus.
Il y avait d'autres bouts, je trouvais que ça me faisait penser à Mastodon un peu. avec le drum qui est vraiment plus qui prend beaucoup de place.
C'est vrai que le drum est très 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 présent.
Ouais. Puis très bon.
Ouais. Ouais. Avec ce qu'on disait au début du podcast, c'est normal. Si on vous demande les gars votre note sur 10 de l'album.
Moi je mettrais un 8. La seule affaire qui me dérange, c'est qu'ils ont comme essayé d'aller plus loin que qu'est-ce qu'il faut aller avec la voix.
Ok.
Si t'enlèves ça, je trouve ça excellent.
Ok. Et toi?
Mon premier 9.
Oh!
I'm resting my case, les boys. Un 9 sur ce CD-là, juste parce que c'est l'amour de lui. Excusez.
C'est correct.
Ok. Ben, c'est ça. Moi, je vais y aller avec un 7 sur 10. Parce que je suis pas un fan de tune de 16 minutes. Ça, c'est
parlant de tune de 16 minutes, on va la faire jouer à 20 podcasts.
Ben oui, juste que vous pouvez entendre vraiment un peu partout ce qu'ils sont capables d'aller. Je pense que c'est une tune qui représente bien le tout. Ça va être quoi le nom de la chanson?
C'est In the Presence of Enemy,
ouais,
Part 2.
Ouais.
Donc la dernière tune CD, celle du clôture.
Qui a comme trois grosses parties dans la tune, puis je pense que ça représente bien le band. Genre chacune des parties, t'en as une plus space, t'en as une plus justement what the fuck cacophonique, puis t'en as une qui est vraiment plus metal.
Okay.
Fait que je pense que c'est ça, un beau melting pot et une belle présentation.
Parlant de cacophonie, ça s'en vient dans 2 secondes?
Ah, mais ça s'en vient. Ah oui, ça, hey, ça fait tellement Between, je trouve, là. Between the Brain and Me.
Voilà, donc assez typique de typique de Dream, là, de juste nous casser un peu un beat pour...
c'est ça.
Il y a un petit bout de jazz et tout que ça... Ah, j'aime tellement ça.
On se rendra peut-être pas jusqu'à là. Fait que...
C'est là.
C'est bon.
Vous avez vraiment
c'est
trop
vraiment
fait
bon. Il y a juste toi qui soupire quasiment.
J'ai de la misère à participer, je veux juste danser tout à l'heure, là.
Bon, fait que on va se laisser avec cette chanson-là que vous aviez dit.
In the Presence of Enemies Part 2.
Yes!
Il regarde même pas ses notes.
Non.
Un fan.
Un vrai fan. Non, ben, comme que je dis, c'est des super bons musiciens. C'est pas mon genre à moi. Je suis capable de dire qu'ils ont du talent et tout ça, mais ça me...
Excuse-toi, ça pas, t'as le droit de pas aimer ça.
Yes!
Ben, puis aussi, j'invite le monde à aller voir le...
C'est ça qui est dur à dire, c'est... C'est pas que j'aime pas ça, c'est que ça ne me rejoint pas.
Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est la même affaire pour le punk. Là. Je veux dire, à chaque épisode qu'on couvre du punk, j'ai de la misère à mettre mes notes parce que je veux pas leur faire mal parce que c'est un bon band, mais j'aime pas ça.
plus qu'une vision. Donc, j'invite les auditeurs à aller voir le making of parce que en écoutant le making of, genre, je sais pas, en voyant le drummer jouer, tu te rends compte que qu'est-ce qu'il joue, c'est pas... Tu sens peut-être pas tout quand genre tu l'écoutes une fois rapidement là, mais quand tu le vois jouer là, c'est tellement impressionnant là. Puis les guitaristes t'en as là que ça sonne à peu près de même, mais c'est juste qu'il fait comme 4 notes bien vite là.
Ouais.
Eux autres là, c'est en tout cas c'est technique au bout, c'est compliqué. Puis le pianiste, c'est la même affaire, le claviériste. Quand j'ai vu le monde aller voir le making of pour
parfait. Fait qu'on vous invite à faire ça. On vous invite aussi à aller sur notre page Facebook.
Oui, d'aller liker nos trucs.
Alors, on a encore notre petit concours qui est en route pour le 27 octobre pour venir fêter ma fête avec nous autres.
En écoutant
le show de l'hommage à Blink. On a une paire de billets à faire tirer pour ça. Fait qu'on espère vous voir tous en grand nombre. Vous avez pu voir l'événement passer sur notre page. Là. On va leur publier aussi quelques fois pour le concours. Sinon, on parle de quoi la semaine prochaine?
C'est
Fredman. Un très très vieux band. On s'en va dans le plus rock classique, un peu plus.
C'est un vinyle qu'on a pigé dans l'armoire à vinyle.
Et ça fait très longtemps qu'on a pigé ça.
Ça donne que c'est un best-of en plus.
Yes.
Qui est pas tant best-of.
La grande qualité.
Ouais.
Attendez-vous à ce qu'on soit en pamoison.
C'est supposé être les meilleurs top. Supposé.
Fait que on vous revient avec l'album, ben le best-of de Manfred Mann qu'on a pigé dans ma collection de vinyles. Et après ça, il va falloir piger un nouveau vinyle, les gars, parce qu'on n'en a plus
de
spécial vinyle pour les prochains.
Ah, puis n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions aussi. Si vous en avez.
Aussi, on va avoir après Manfred Mann, il va falloir faire Bravo Cordis. Un Ben québécois qui nous a envoyé leur album pour qu'on fasse une belle petite critique de ça. On vous revient avec ça dans les 2 prochaines semaines. Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Bye là.
day of judgment rain. I have known your father and your sacred quest. Blessed soldier fighting, you shall never rest. I have known you, but
for they are.
Est-ce que c'était long?